Amen. Oh, nous allons passer des heures merveilleuses. Et je vous invite tout de suite à tourner vos regards vers Jésus, à lever vos yeux vers lui, parce qu'il est le chef, il est le consommateur de la foi. Et alors je lisais le psaume 96 qui nous dit « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. » Et la parole de Dieu nous dit que tout ce qui est en nous, bénissons son nom. La Bible dit qu'il est beau de louer le Seigneur. Poussez des cris de joie. La Bible dit que vos bouches soient remplies de louanges. Amen. D'accord? Nous allons vraiment nous réjouir dans le Seigneur? Et c'est la Bible qui le dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Alléluia. La joie de l'Éternel est notre force. Eh bien, nous allons chanter sur ce petit fascicule, le numéro C. Jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Les jeunes filles danseront de joie. Amen. Alléluia. Oh, merci Seigneur.
Le Seigneur se réjouit en s'ensemble, les jeunes filles en se rendent de joie.
Voyez combien le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon, amen. Oh, je voudrais qu'on rentre tout de suite dans la louange et dans l'adoration. Car une heure dansée par lui vaut mieux que mille. Amen. Alors on rechante, mais réjouissez-vous, soyez, laissez vos problèmes dehors. Hein. Tenez-vous dans la présence du Seigneur. Le Maître est là. Jésus est là. Et nous sommes tous regroupés autour de sa personne. Wow, regardez, venez et contemplez le Seigneur. Comme Marie, elle avait choisi la meilleure part. Ses yeux ne se détournaient pas de son Sauveur. Elle contemplait Jésus. Elle l'écoutait. Marthe était très agitée avec ses casseroles. Mais Marie était au pied du Maître. Oh, alors que nous aussi, nous puissions nous tenir à ses pieds. Nous tenir au pied de Jésus. Afin que le Seigneur nous visite par son esprit. Afin que le Seigneur nous libère de tous nos scories, de tout ce qui est impur. Afin que nous soyons comme les premiers disciples, pleins de foi et pleins d'esprit. Le désir de Dieu, mes frères et sœurs, c'est que vous repartiez de cette convention remplie du Saint-Esprit. Vous le désirez? Quels sont ceux qui le désirent? Oh, moi, si je pouvais lever les pieds aussi, je l'ai. Oui, je désire une double onction de son Saint-Esprit. J'en ai besoin. Parce que sans lui, on est zéro. Sans lui, on ne peut rien faire. Et nous, avec mon frère Samuel, nous avons recommandé cette convention, cette soirée, et nous l'avons remis entre les mains de notre Seigneur. Seigneur, prends en main cette soirée. Conduis-la, dirige-la. Nous sommes prêts à changer le programme. Mais nous voulons être à l'écoute de son esprit. Amen. Vous aussi, vous êtes prêts à vous laisser saisir par son Saint-Esprit? Amen. Le Seigneur va vous faire du bien. Amen. Alléluia. Alors on le rechante, hein, mais avec un peu plus d'ardeur. Montrez un petit peu votre chemin. Hein. Alléluia. Vous savez, malgré mes 85 kilos, moi. Alléluia. Je me sens en forme dans le Seigneur. Alléluia.
Le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur,
sois-tu, Seigneur Jésus. Oh, il est bon de chanter ton amour. Agneau de Dieu qui a donné ta vie pour nous, nos cœurs t'aiment et t'adorent. Nous sommes à toi le troupeau de ton pâturage, ce que tu as racheté par ton sang précieux. Un jour, nous serons autour de toi pour chanter, louer ton nom au-dessus de tous les noms. Mais dès maintenant, nos cœurs sont ravis dans ta présence. Il y a d'abondantes joies devant ta face. des délices éternels à ta droite. Ô Seigneur, nous pourrions continuer de t'exalter. Tu es digne, Seigneur. Rien pour nous, mais tout pour toi seul, car tu as été le seul à souffrir pour nous, à donner ta vie. Merci, Seigneur. Merci pour l'alliance que tu as fait avec nous par le sang de la croix. Merci parce que tu es tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. Merci, Seigneur. Nous nous attendons à toi maintenant. Tu illumines notre entendement spirituel pour que nous puissions entendre ta voix au travers de ta parole et que nous soyons encouragés, édifiés, fortifiés, délivrés. Seigneur, nous nous attendons à toi. Inspire les paroles selon les besoins des cœurs. Mets ton onction sur mon esprit, Seigneur, sur mes lèvres, sur mon être entier. Et mets ton onction sur tes enfants aussi, afin qu'ils soient aussi attentifs à ta voix et qu'ainsi nous soyons enseignés par toi et non par un homme ou par la sagesse de l'homme. Seigneur, nous sommes faibles. Je suis faible, mais ta puissance s'accomplit au travers de notre faiblesse, afin que toute la gloire t'en revienne. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et que tout le peuple de Dieu dise Amen. À lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Nous restons dans sa sainte présence. Nous nous attendons à lui, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mais lorsque lui est là, l'impossible devient possible. Les faibles deviennent forts. Les fous deviennent sages. Les esclaves deviennent libres. Alléluia. Mais seulement dans la présence de Dieu. Et comme nous allons passer Pâques ensemble, Pâques est la fête de la mort et de la résurrection de Jésus. S'il est ressuscité, alors il est au milieu de nous ce soir. Le croyez-vous? Il est au milieu de nous. Parce qu'il est ressuscité. Et s'il est ressuscité, comme autrefois, il est allé près de ses disciples avant de monter au ciel définitivement, pour les consoler, pour les aider, pour les bénir, pour les fortifier. Et il est seulement monté au ciel lorsqu'il savait que tous avaient été bénis, encouragés, fortifiés. Et je suis sûr que le désir du Seigneur est que pendant cette retraite, vous partiez tous encouragés par le Seigneur. Alléluia. Mais pour cela, vos regards, comme mes regards, doivent être sur le Seigneur. Un regard fixé sur l'homme et le Seigneur ne peut plus agir. Écoutez, ceci est important. Nous devons constamment nous attendre à lui. Et même là où vous êtes, la puissance de Dieu peut vous toucher. Alléluia! Je m'attends à ce que de plus en plus la puissance de Dieu agisse là où vous vous trouvez pour bien montrer que c'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui est vivant au milieu de nous. Il n'est pas limité. Ne limitons pas un Dieu illimité. Ainsi attendons-nous à lui. Il veut agir. Que son nom soit béni.
Alléluia.
Pour le premier message de ce soir, mon frère a déjà un peu introduit mon message quand il a commencé au début. Si vous avez remarqué, une des premières paroles qu'il a dites était « Même lorsque nous sommes dans l'épreuve, il nous faut apprendre à louer Dieu. » Et j'avais justement l'intention de parler sur le sujet de l'épreuve. Comment grandir dans l'épreuve? Comment transformer nos épreuves en bénédictions? Comment être éprouvé mais triomphant? Alléluia. C'est ce que les disciples étaient, tout spécialement pendant les temps où Jésus parlait de souffrance et de sa mort. Quelle épreuve pour eux, n'est-ce pas? Mais la résurrection a été pour eux le jour où l'épreuve a été changée en bénédiction. Et je crois que nous devons tous apprendre comment transformer nos épreuves en bénédictions. Comment grandir dans l'épreuve. Être verdoyant malgré la sécheresse. J'aime bien cela. Je crois que c'est le titre d'un livre. Verdoyant malgré la sécheresse. C'est beau, n'est-ce pas? Éprouvé, mais triomphant. Et si nous savons grandir dans l'épreuve, dites-moi, qu'est-ce qui peut nous empêcher de grandir? Qu'est-ce qui peut nous empêcher de nous épanouir spirituellement? Il n'y a plus rien. Grandir dans la bénédiction, cela est facile, n'est-ce pas? Il y en a qui ne grandissent que dans la bénédiction. Mais il faut apprendre à grandir dans l'épreuve. Utiliser ces épreuves pour grandir, pour devenir des adultes spirituellement. Je sais que cela n'est pas toujours facile. Je sais que cela est une leçon que nous devons apprendre tous les jours de notre vie. Mais il y a des principes, il y a des leçons, il y a des vérités essentielles à connaître. Et c'est ce que je voudrais qu'on voit ensemble ce soir. Pour cela, c'est l'apôtre Paul qui va nous aider, l'homme qui est passé par maintes épreuves, n'est-ce pas vrai? Maintes épreuves, mais qui cependant a achevé la course. Il a combattu le bon combat. Il a achevé sa course et il a gardé la foi. Alléluia. Cela voulait dire que, quelles que soient ses épreuves, il est allé jusqu'au bout. Alléluia! Lisons maintenant un passage dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 5 et les 5 premiers versets. Romains, chapitre 5 et les 5 premiers versets. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Écoutez, maintenant, il y a là quelque chose de formidable. Voilà ce qu'il dit. Il a dû comprendre quelque chose. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Que Dieu bénisse sa parole. Ce passage est extraordinaire, vous ne trouvez pas? Bien plus, nous nous glorifions des afflictions. Pour en arriver là, eh bien, il fallait que l'apôtre Paul ait compris certaines choses. Et c'est ce que le Saint-Esprit veut que nous comprenions, afin que nous puissions nous aussi grandir dans l'épreuve. Mais comment cela? Ce passage nous révèle sept étapes pour grandir dans l'adversité, dans l'opposition, dans la contradiction. Sept étapes que nous allons voir brièvement, mais qui sont très importantes pour nous. La première étape, c'est bien réaliser et comprendre la grâce de Dieu dans sa vie. La grâce de Dieu. Je souligne bien cette pensée, la grâce de Dieu. Il est dit que nous sommes justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Qu'est-ce que cela veut dire? La grâce de Dieu. Vous savez que l'épître de Paul aux Romains, c'est l'épître de la justification. C'est l'épître qui nous montre que l'homme est justifié devant Dieu par la foi et non par les œuvres que l'homme peut faire. Ce message-là, c'est une révolution. C'était une véritable révolution. Et c'était une véritable révélation pour l'apôtre Paul. Lorsqu'il dit que nous devons tenir ferme dans cette grâce, il veut dire par là que lorsque nous avons été sauvés, nous avons été sauvés par grâce. Et cette grâce, voyez-vous, nous donne accès. Il est parlé ici, et nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Le mot accès ici est très important. Dans le texte grec, le mot accès a deux sens précis. Le mot accès a premièrement ce sens-là. C'est un mot qui était utilisé pour introduire quelqu'un dans la présence d'un roi. C'était utilisé pour introduire quelqu'un dans la présence d'un roi. Et c'est ce qui s'est passé lorsque nous avons cru en la grâce de Dieu. Nous avons été introduits jusque dans la présence même de Dieu. Alléluia! Savez-vous qu'autrefois, dans l'Ancien Testament, et jusqu'à ce que Paul ait cette révélation, aucun homme n'avait accès jusque dans la présence de Dieu? Dans l'Ancien Testament, il n'y avait que le souverain sacrificateur qui n'entrait qu'une fois par an dans le lieu très saint. Mais entrer jusque dans la présence même du roi des rois, cela était inconnu. Jamais homme n'aurait pensé que cela serait possible. C'est pourquoi pour les juifs qui entendaient cela, les romains qui entendaient cela, c'était une véritable révolution. Avoir accès jusque dans la présence même de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pourquoi il disait, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Il veut dire par là qu'au moment où on est introduit dans cette grâce et dans la présence de Dieu, il y a la gloire de Dieu. Alléluia. Dans la présence de Dieu, il y a ce ravissement, il y a cette présence qui pénètre dans le fond de nous-mêmes et qui rayonne au travers de nous-mêmes. Mais c'était nouveau. il y a un deuxième sens pour le mot accès. Il était utilisé pour un port qui devait recevoir les bateaux. Pour un port. Ce qui voulait dire que, une fois que nous avons accepté la grâce de Dieu, le pardon de Dieu dans notre vie, nous avons été introduits, après avoir été ballottés dans l'océan des œuvres, où nous étions incapables de trouver la paix. Il y a encore, savez-vous, beaucoup de gens qui cherchent le salut par leurs œuvres. Ils essayent de plaire à Dieu à cause de ce qu'ils font. Et ces gens-là sont continuellement comme dans une mer, comme dans un bateau, ballottés par la tempête, sans aucune paix. Et l'apôtre Paul a cette révélation. Mais maintenant, à cause de cette grâce, il y a quelque chose qui se passe. Votre bateau n'est plus ballotté par le vent et par la tempête. Maintenant, vous avez trouvé un accès, un chemin qui vous conduit au port. Et là, dans ce port, il y a la paix. Il y a le calme. Enfin, l'homme se repose de ses œuvres parce qu'il a cru en l'œuvre de Dieu. Alléluia! Et c'est pourquoi, écoutez-moi bien, nous devons tenir ferme dans cette grâce. Ce qui veut dire que devant Dieu, nous ne pouvons mériter quoi que ce soit. Nous ne pouvons pas nous présenter devant Dieu à cause de ce que nous avons fait ou à cause de ce que nous sommes. Nous ne pouvons pas. Jamais l'homme ne sera agréable à Dieu qu'au travers de cette grâce immérité que nous avons en Jésus-Christ. Amen. Et quelle libération lorsque nous savons que nous sommes admis dans la présence de Dieu, non à cause de nous-mêmes. Écoutez-moi bien, c'est une bonne nouvelle pour vous. C'est une bonne nouvelle. Dieu vous accorde sa présence, non pas à cause de vos larmes, non pas à cause de vos prières, non pas parce que vous avez jeûné, non pas parce que vous avez fait beaucoup de choses, non! Sa grâce vous est accordée d'une manière imméritée. Alléluia! Et cela humilie l'homme. Car l'homme est orgueilleux. Il veut toujours se faire valoir. Dans la présence de Dieu, il veut faire valoir quelque chose en lui-même. Pour dire, oh mon Dieu, tu vois, alors bénis-moi parce qu'il y a ceci de bien en moi. Tu vois, Seigneur, je ne suis quand même pas comme le reste des hommes. Il y a quand même certaines bonnes choses en moi, Seigneur. Mais jamais nous ne trouverons cette paix qui surpasse toute intelligence si nous ne nous cramponnons pas à cette grâce divine. Alléluia! Et cette grâce veut dire que nous avons été acceptés en Jésus-Christ. Amen! Que nous avons été acceptés en Jésus-Christ. Ceci est important. Vous savez pourquoi? Parce que tout à l'heure, l'apôtre va continuer son exposé et il va nous révéler une vérité. C'est que si nous sommes acceptés par Dieu, nous ne sommes pas toujours acceptés. Lorsque nous savons que Dieu nous a acceptés, pleinement acceptés, par grâce. Alléluia! C'est quelque chose de formidable. La deuxième étape maintenant est celle-ci. Cette grâce nous donne cette paix. Parce qu'il est dit ici, étant donc justifiés par la foi, nous avons la quoi ? La paix avec Dieu. Lorsque nous croyons que c'est par grâce que nous pouvons nous tenir dans la présence de Dieu, alors il y a cette paix qui remplit nos cœurs. Écoutez-moi bien. Vous allez dire, mais j'ai appris cela lorsque je me suis converti. Maintenant, je vais plus loin. J'en suis plus loin. Ah oui? Bien des chrétiens, ils ne vont pas plus loin, ils reculent. Parce qu'ils commencent selon l'esprit, mais ils finissent selon la chair. Vous pensez bien, surtout quand on a quelques années de conversion, et que Dieu nous a bénis, et qu'on a quelques dons spirituels, et qu'on a amené une âme au Seigneur, qu'on a prié pour un malade, le malade a été guéri, alors tout de suite, dans notre cœur, il y a quelque chose qui se passe. Ah, nous valons quelque chose. Et si Dieu m'a exaucé, c'est parce que, ouais, quand même, je suis quelqu'un. Et nous pensons que nous pouvons nous approcher de Dieu à cause de ce que nous sommes. Là, il y a une grande tentation. C'est pourquoi il faut constamment, constamment revenir à la croix. Amen. Revenir, revenir, revenir et tenir ferme, Seigneur. C'est par grâce que tu m'as sauvé et c'est par grâce que tu veux me bénir. Amen. Par grâce. Ne regardez pas vous-même. Il y a toujours deux attitudes extrêmes. Les uns, en regardant à eux-mêmes, s'enorgueillissent. Et ils disent, moi, je suis quelqu'un. Et les autres regardent à eux-mêmes, et c'est l'effet contraire, ils se découragent. Alors les uns se présentent devant Dieu en disant, oh Seigneur, eh bien, pendant ce week-end, tu vas me bénir, hein, parce que, hein, tu sais, j'ai fait pas mal de choses ces derniers temps. Oh là là, Seigneur, si tu savais, il faut que je te montre mon programme un petit peu. J'ai fait des choses extraordinaires. Alors, il faut que tu me bénisses. Et l'autre arrive ici. Seigneur, ça a été la catastrophe cette semaine. Ou le mois passé, ça a été la catastrophe, Seigneur. C'est pas possible que tu puisses me bénir. C'est pas possible. Voyez-vous, c'est deux positions tout à fait contraires. C'est pas possible, Seigneur. C'est pas possible. Tu ne peux pas me bénir avec tout ce que j'ai fait ou ne pas fait. Tu ne peux pas. Et sans nous en rendre compte, nous sortons du terrain de la grâce. Nous sortons de la présence du roi des rois. Nous sortons du port. Et nous allons de nouveau dans l'océan des œuvres, dans la mer agitée des œuvres. Et nous sommes ballottés et nous n'en sortons plus. Tenons ferme la grâce de Dieu. Amen. Oh, ceci est important. Si Dieu vous bénit ce soir, ce week-end, c'est par grâce. C'est par grâce. Il ne veut que votre obéissance. Lorsque Dieu vous parle, obéissez. Mais c'est par grâce qu'il vous bénit. Par grâce, non pas à cause de moi. Je ne compte pas sur moi-même. Mais sur la grâce de Dieu. Ne regardez pas vous-même, demeurez ferme dans cette grâce, et cette grâce produit la paix. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Alléluia. Et plus nous restons dans cette grâce, plus nous aurons la paix, la paix. Et plus que jamais nous en avons besoin aujourd'hui de cette paix, n'est-ce pas vrai? Et combien même des chrétiens sont privés de cette paix? Ils ont bien la paix avec Dieu, mais ils n'ont pas la paix de Dieu dans leur cœur et dans leurs pensées. N'est-ce pas vrai? La paix, la paix. Mais la paix nous sera maintenue dans la mesure où nous disons, Seigneur, tout est par grâce. Alléluia! Continuellement revenir au pied de la croix. C'est au pied de la croix que l'on reçoit les bénédictions et les bénédictions sans nombre. Amen. Premièrement, la grâce de Dieu. Il faut demeurer ferme parce que le cœur humain a tendance à s'éloigner de ses vérités. Le cœur religieux de l'homme a tendance à s'en éloigner parce que l'homme religieux veut se vanter toujours de ce qu'il fait, de ce qu'il est. Il a une meilleure religion que l'autre, il fait des meilleurs œuvres que l'autre. Il pleure plus fort que l'autre. Il jeûne plus de jours que l'autre. Il donne plus à la dîme que l'autre. C'est très subtil. Et nous nous présentons devant Dieu en disant, « Oh Seigneur, tu vois, quelle merveilleuse personne je suis. » Et on est étonné de ce que le ciel est fermé. Le ciel sera toujours fermé si nous nous présentons en disant « Oh Seigneur, quelle merveilleuse personne je suis !» Mais le ciel sera ouvert si tu viens en disant « Quelle merveilleuse personne tu es !»« Quelle merveilleuse grâce en Jésus-Christ !» Alléluia ! C'est le message qui libère. Car le salut par les œuvres, le chrétien qui essaye de mériter les bénédictions, c'est un véritable esclavage. Jamais il n'a assez fait, n'est-ce pas vrai? On se demande bien souvent, mais moi-même, parfois, quand je commence à dévier un petit peu, je me dis, mais qu'est-ce qu'il faut encore que je fasse pour que je sois béni? Qu'est-ce qu'il faut encore que je fasse? Comme si c'était tout de moi-même. Oui, je dois obéir. L'homme doit obéir, c'est tout ce qu'il doit faire. Il doit obéir, c'est sa part. Mais la part de Dieu est qu'il nous bénit par grâce. Alléluia! Tu seras étonné de voir la main de Dieu sur toi, si tu crois cela. Gloire au Seigneur. Allons un peu plus loin maintenant. La grâce produit la paix. Et cette paix maintenant, cette paix, malheureusement, n'est pas toujours acceptée autour de soi. Cette paix qui est en nous produit des afflictions. Parce qu'il est dit ici, bien plus nous nous glorifions même des afflictions. Étant en paix avec Dieu, automatiquement, nous ne serons pas en paix avec tous les hommes. Cela, ne l'oubliez pas. Mais vous ne perdrez pas votre paix devant les hommes si vous savez demeurer ferme dans la grâce de Dieu et recevoir sa paix. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre dit aux Romains, parce que à ce moment-là, être chrétien à Rome, ce n'était pas facile. Être chrétien à Rome, c'était être persécuté. Être chrétien à Rome, c'était être rejeté. Et l'apôtre Paul leur dit, demeurez ferme dans cette grâce et dans cette paix, parce que les circonstances extérieures essaieront de ravir cette paix que Dieu vous a donnée. Et le mot affliction ici, c'est la troisième étape. Il faut passer par les afflictions. Le mot affliction veut dire, dans le texte grec, il y a l'idée de pression, d'un poids qui est mis sur nous, de tension. Et là, l'apôtre Paul pensait certainement à la tension, à la pression que les chrétiens de Rome devaient supporter. Il y avait la persécution, il y avait la solitude, il y avait peut-être certains bien-aimés qui étaient morts, la séparation dans les foyers, l'isolement. Et l'apôtre discernait que tout cela était comme un poids, comme une affliction sur les chrétiens. Et il leur dit que ces afflictions, dans le plan de Dieu, sont destinées à vous faire grandir dans la foi. Ces afflictions, ces tensions, ces pressions ne sont pas destinées à vous détruire, mais à construire en vous une foi toujours plus grande. Alléluia! L'affliction. Et l'affliction, qu'est-ce qu'elle produit? Voyons la quatrième étape maintenant. L'affliction produit la persévérance. Et le mot persévérance ici veut dire, dans le texte, c'est un esprit qui ne supporte pas seulement l'épreuve, mais c'est un esprit qui surmonte les difficultés et qui est décidé à ne se jamais laisser arrêter, quelles que soient les circonstances. Voilà ce que l'affliction, voilà ce que les épreuves doivent produire dans notre vie. Mais pour cela, il faut avoir la bonne attitude.
soit nous avons une attitude négative et ces poids, ces tensions nous écrasent, ou alors nous avons la bonne attitude et nous disons non, je ne vais pas permettre à cette affliction qui est là dans ma vie pour me détruire, pour m'écraser. Je ne veux pas cela. Savez-vous que vous devez prendre des décisions dans ce domaine-là? Écoutez-moi bien, c'est très important. Très important. Sentez-vous un poids sur vous? Le poids de la solitude? Le poids de la séparation? Le poids d'un bien-aimé qui est mort? Le poids de, je ne sais pas, de l'isolement? De la persécution? Est-ce qu'il y a un poids qui vous écrase? Vous pouvez avoir deux attitudes. Une attitude positive, une attitude négative. Une qui vous détruira et l'autre qui vous délivrera. Mais vous devez dire, c'est pas possible. Dans le plan de Dieu, cette affliction, ce poids, cette tension est faite pour me faire grandir. Eh bien, c'est ce que je veux. Je ne veux pas être détruit par mon épreuve. Mais au contraire, je veux surmonter cela et je veux aller de l'avant. Je veux apprendre quelque chose. Je veux grandir au travers de cette épreuve et non pas diminuer. Combien, au travers de leurs épreuves, vous les voyez deviennent des nains? En entrant dans l'épreuve, c'est des véritables géants spirituels. Mais après l'épreuve, vous les voyez, ils ont diminué de 3-4 mètres. Il n'y a plus personne. Des véritables nains spirituels. Ils ont diminué. L'épreuve les a complètement diminués. Non, ce n'est pas le plan de Dieu. Mais vous avez une décision à prendre. Vous devez dire, lorsque l'épreuve est là, lorsque l'affliction est là, l'affliction doit produire la persévérance. Voyez-vous, dans le plan de Dieu, voilà, c'est cela que cela doit produire. Et vous devez dire, eh bien, je ne vais pas me laisser arrêter par cela. Je ne vais pas, ce n'est pas possible. Rien ne m'arrêtera. Ceci est important, vous devez le dire. Il ne faut pas vous prendre par pitié. La pitié de soi, c'est quelque chose de terrible. La pitié de soi, c'est quelque chose de terrible qui peut vous paralyser. Et vous pouvez complètement abandonner la course, décourager et dire, oh, ce n'est pas possible, tout le monde est contre moi, tout le monde m'abandonne. Oh, s'il m'aimait, il n'aurait pas fait ceci. Oh, s'il m'aimait cela, il n'aurait pas fait cela. Non. L'affliction produit la persévérance. C'est quelqu'un qui ne supporte pas simplement la difficulté en baissant la tête, en disant, oh, il faut bien passer par là. Comme beaucoup d'entre nous ont dit, oh, bon, oui, il faut bien passer par là. Et nous nous résignons, c'est une résignation, mais il n'y a pas de victoire. Même lorsque l'épreuve a passé, on est plus aigri qu'avant. Au contraire, lorsque la même épreuve revient, on est encore plus aigri qu'avant. Et nous n'en sortons plus. L'affliction produit la persévérance. J'ai lu dans un article au sujet d'Abraham Lincoln. Abraham Lincoln avait cette persévérance. Et le mot grec ici pour persévérance, c'est hypoméné. C'est vraiment quelque chose. C'est quelqu'un qui est décidé à aller jusqu'au bout. Et que rien ne peut arrêter. C'était le moment de dire alléluia, mais enfin, vous avez oublié de le faire. Tant pis. Abraham Lincoln. Savez-vous qu'il a été président de la République? Président, non. Excusez-moi, je suis en France, moi. Il a été président des USA. Mais il y a une chose qu'on ne sait pas à son sujet. Il a été président des USA en 1860. Mais savez-vous depuis quand il a commencé à se placer comme un candidat? Il a commencé en 1831. Pendant 30 ans, il ne s'est pas laissé arrêter. En 31, il a été un échec dans les affaires. En 32, il a été défait. Je ne sais pas où, là, je ne me souviens plus. Defeated for legislature, je ne me souviens plus. 1838, aux élections. 1843, au Congrès. 1848, au Sénat. 1856, comme vice-président. Allez, mis de côté, chaque fois battu. Mais Abraham Lincoln ne s'est pas laissé arrêter. Et 1860, président des USA. Alléluia! Ça, c'est la persévérance. Ça, c'est l'affliction qui produit la persévérance. Je lisais aussi, dans un petit article, l'histoire d'une petite grenouille. Je saute un peu du coq à l'âne, puisqu'on parle de la grenouille. Je lisais il y avait toute une petite équipe de grenouilles qui se trouvait sur un chemin plein de boue. Et puis il y a une grenouille, enfin ils étaient un peu dans un, comme dans un chemin plein de boue, mais il y avait comme des petits trous aussi. Alors toutes les grenouilles ont réussi à sortir de ce trou. Et malheureusement, une grenouille n'a pas pu s'en sortir. Et puis les autres grenouilles essayaient de l'aider pour s'en sortir. Pas possible. Alors finalement, ces grenouilles ont tout abandonné et elles sont parties. Mais laissant leur petite grenouille là-bas au fond. Le lendemain, qu'est-ce que ces grenouilles voient? Elles voient leur ami grenouille qui est là, sorti de son trou et du chemin. Alors, elles lui demandent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment t'as fait pour sortir? Alors la grenouille a dit, mais écoutez-moi, il y a le tracteur qui arrivait. Je devais bien sortir de là! Il n'y avait pas d'autre issue, je devais sortir! Le tracteur arrivait, c'était la mort! C'était le brisement! Ah, il fallait sortir! Voyez-vous? Quand on commence un peu à prendre des décisions et à dire maintenant c'est terminé, bien souvent nous disons oh, je veux bien m'en sortir. Alors les autres sont là pour nous aider, mais dans le fond de notre cœur, nous n'avons pas pris de décision. Nous n'avons pas décidé de dire, bon, maintenant, cette épreuve ne me détruira pas. Cette épreuve sera une bénédiction pour moi. Amen. Il faut le dire. Et vous verrez qu'au moment où vous prenez cette décision, quelque chose de miraculeux se passe. Dieu ne nous délivre pas toujours de l'épreuve, mais il nous délivre toujours dans l'épreuve. Alléluia. La persévérance. Je lisais ici, j'ai noté aussi cette pensée. Un des tests suprêmes d'un leader est ceci, un homme qui veut être un leader. Un des tests suprêmes d'un responsable, d'un leader est ceci. Quelle est son attitude dans la défaite? Quel est son comportement lorsqu'il est défait? C'est là que se révèle le vrai test d'un leader. Qu'est-ce qu'il va faire dans la défaite? Alors, il y a deux solutions. Il peut dire, c'est terminé. Je suis fichu. Il peut dire ça. Mais il peut dire aussi, cette défaite, au travers de cette défaite, je vais apprendre une leçon. Et j'irai plus loin. Et je vais grandir au travers de cette défaite. Je serai vainqueur au travers de cette défaite. Ça, c'est un leader. Et l'homme ou la femme qui a cela, c'est l'homme et la femme que Dieu utilisera. Hallelujah. Voilà pourquoi les premiers chrétiens, même à Rome, personne ne pouvait les arrêter. Personne, ni la persécution, ni le feu, ni les Césars, ni les empereurs. Personne. C'était des hommes et des femmes qui avaient donné leur vie à Dieu. Et en aucun cas, ils se permettaient à eux-mêmes de dire, je vais me laisser arrêter, c'est fini maintenant, on s'en sort plus. Non, jamais. Savez-vous que même les Romains eux-mêmes, ils avaient cette qualité-là. Ils avaient cette qualité lorsqu'ils allaient à la guerre. Jamais un Romain et l'Empire romain n'acceptaient la défaite, jamais. Même lorsqu'ils étaient battus, jamais ils avouaient qu'ils étaient vaincus. Jamais. Et voilà pourquoi pendant un certain temps, ils étaient presque invincibles. Jamais. Eux qui n'ont pas l'Esprit du Christ, s'ils peuvent faire cela, à combien plus forte raison nous qui avons l'Esprit du Christ. Amen. Avec le Seigneur, avec son Esprit en nous, nous pouvons persévérer et ne pas nous laisser arrêter par qui que ce soit. Voulez-vous le dire, mes chers amis? Voulez-vous le dire au Seigneur? Seigneur, jusqu'à présent, j'ai permis à cette affliction de m'arrêter, de me détruire, de me remplir d'amertume. Mais vous n'avancez pas, vous n'avancez plus. Dites à partir de maintenant, c'est terminé. Je veux changer cette défaite en victoire. Je veux me nourrir de l'adversité. Seulement on dit Alléluia. Alléluia, Alléluia. Gloire au Seigneur. Comme Samson qui a mangé du miel dans la carcasse du lion. Alléluia. Dans la carcasse du lion. Oui, là, dans l'antre même de l'ennemi, Dieu veut nous donner à manger.
Et non pas Dieu, Seigneur, Seigneur, ça va plus,
délivre-moi. Non, dites Seigneur, je veux utiliser cette épreuve pour te glorifier. Et je ne me laisserai pas arrêter par cela. Et la grâce de Dieu vous rendra plus que vainqueur. Alléluia. Ceci est très important. Très important, parce que c'est là que beaucoup de chrétiens s'arrêtent. C'est là qu'ils échouent. Et la persévérance, qu'est-ce qu'elle produit? Cinquième étape maintenant, la persévérance. Voyez-vous, quand quelqu'un persévère et est décidé à aller jusqu'au bout, la persévérance produit la victoire dans l'épreuve. La victoire dans l'épreuve. Et le mot ici pour victoire dans l'épreuve est ceci, dans le texte original, c'est très important. Ce mot veut dire, c'est un mot qui est utilisé pour un métal qui a passé par le feu de telle sorte que toute impureté en a été éliminée. Ce qui fait que lorsque nous sommes vainqueurs dans l'épreuve, Dieu nous a purifiés. Nous sortons plus purs de l'épreuve. Nous sortons plus forts de l'épreuve. Nous sortons plus près de Dieu. Et nous sortons meilleurs de l'épreuve. Alléluia. Voilà le but de Dieu. Voilà ce que signifie être vainqueur dans l'épreuve. C'est le feu qui purifie, comme les Hébreux dans la fournaise. Le feu ne les a pas détruits, mais le feu a détruit leurs liens. Et ils étaient libres. Libérés de leurs liens par le feu. Chers amis, ne l'oubliez pas. La persévérance, lorsque nous sommes décidés à aller jusqu'au bout, alors, il y a des victoires qui se remportent. Notre cœur est purifié. Nous devenons plus purs, plus forts. Voilà le but de l'épreuve. Lorsque nous comprenons cela, alors, nous commençons à nous réjouir, comme l'apôtre Paul, et nous disons, mais nous nous réjouissons. Nous nous réjouissons parce que nous allons en sortir plus purs, plus forts et plus près de Dieu. Gloire à Dieu. Mais il faut la bonne attitude. Il faut dire, oui Seigneur, je veux grandir et je veux être plus près de toi. Gloire à ton nom Seigneur. Alléluia. Et la victoire dans l'épreuve, qu'est-ce qu'elle produit? La victoire dans l'épreuve produit l'espérance. L'espérance. Lorsque nous avons remporté des victoires, alors nous sommes, dans notre cœur, il y a comme une espérance qui naît. C'est comme si Dieu nous disait, voilà, tu as remporté des victoires dans ce domaine-là, eh bien, quand une autre épreuve viendra, le Seigneur te soutiendra. Il t'aidera. Et tu ne seras pas écrasé. Comme tu as vaincu maintenant, tu vaincras plus tard. Et cette victoire présente nourrit l'espérance future. Alléluia. Mais s'il n'y a pas de victoire présente, qu'est-ce qui se passe? On se dit, qu'est-ce qui va encore m'arriver? Ah, c'est pas possible. Combien disent, ah, mais alors, toujours épreuve sur épreuve, on s'en sort plus. Mais celui qui a appris les leçons dit, mais parle autrement. Au travers de cette épreuve, j'ai mangé déjà du bon miel. Alléluia. Ah, je me suis nourri dans cette carcasse de lion. Le miel était succulent. Je pense qu'avec la prochaine épreuve, ce sera encore meilleur. Puisque le meilleur est à venir, alléluia. La persévérance produit l'espérance. C'est cela. Parce que, puisque nous avons déjà vaincu, nous sommes remplis d'espérance pour le futur. Et nous disons, et nous pouvons dire, quoi qu'il arrive, eh bien le Seigneur sera avec moi. Alléluia. C'est comme David. Savez-vous pourquoi il a pu vaincre Goliath? Goliath. Croyez-vous qu'il est allé tout de suite à l'attaque de Goliath? Non. Il a dû d'abord prendre du courage avant, il a dû d'abord combattre avant. Qui a-t-il combattu d'abord? Le lion et l'ours, lorsqu'il était berger. Et que le lion et l'ours commençaient à s'approcher du troupeau pour ravir le troupeau, il est dit que David a détruit le lion et l'ours. Et c'est ainsi que, en remportant des victoires dans la vie, dans sa vie privée, dans son travail, cette victoire remportée lui donnait une espérance. Une espérance non seulement pour lui-même, mais une espérance pour Israël aussi, alléluia. Et le jour où il y a eu le grand défi contre Israël, alors à ce moment-là, David était prêt. David était prêt parce qu'il avait vaincu avant. Alors il s'est dit, comme l'Éternel m'a livré le lion et l'ours, cet homme-là, ce géant, tombera également. N'est-ce pas merveilleux? Il tombera également. Et il est tombé. Alléluia. La victoire dans l'épreuve produit la persévérance. Et la persévérance, l'espérance. Voyez-vous ce qui se passe lorsque nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout? Lorsque nous sommes déterminés à vaincre, nous sommes déjà vainqueurs. Amen. Nous sommes déjà vainqueurs. Oh, mes chers amis, que Dieu nous aide à persévérer. Et pour terminer, l'espérance, qu'est-ce qu'elle produit? Elle produit, il est dit ici, « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » La septième étape qui nous permettra de nous nourrir dans l'adversité, de triompher lorsque tout s'oppose à nous, c'est la réalisation de l'amour de Dieu pour nous. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et ici, l'expression « amour de Dieu », ce n'est pas notre amour pour lui, mais c'est son amour pour nous dont il est question ici. L'amour de Dieu pour nous a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. La présence de l'Esprit en nous est le gage que Dieu nous aime. Et un peu plus loin, il est dit, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » L'amour de Dieu. Dieu a prouvé son amour envers vous. Lorsque vous étiez encore ennemis, il est mort pour vous. Maintenant que vous êtes ses amis, maintenant que vous êtes ses enfants, mais qu'est-ce qu'il ne fera pas pour vous? Qu'est-ce qu'il ne fera pas en vous? Vous êtes aimés, puisqu'il vous a aimés en tant qu'ennemis. À combien plus forte raison, maintenant son amour est manifesté envers vous, envers nous, que nous sommes ses enfants. Alléluia.